Bah ouais, c'était il y a presque plus de presque 20 ans hein, que la Mao Negra se demandait quel allait être le prochain Honduras. Et ben, le prochain Honduras, c'est toujours le Honduras, car le Honduras a une espèce de façon de garder le conflit de la guerre froide toujours très présent. Et si depuis quelques mois vous êtes un habitué des pages internationales, des journaux, parce que la télé on n'en parle pas trop, ben vous savez que le Honduras vit une crise politique très importante après le coup d'État qui a eu lieu le 28 juin dernier. Et donc à peu près tout le monde cette fois-ci, que ce soit les Américains, les Hugo Chavez au Venezuela, mais les Russes, les Français, l'Union européenne, tout le monde a condamné ce coup d'État. Mais bah, finalement, hein, bah, le coup d'État a quand même pas mal marché, puisque Roberto Michelletti est le président de facto, depuis qu'il a viré Manu Militari grâce à ses militaires, le président élu qui était Manuel Zelaya. Et alors aujourd'hui, on se trouve dans une situation assez particulière, puisque ben, le président élu, donc j'espère que vous ne vous êtes pas perdu, mais qui est Manuel Zelaya, qui donc avait été expulsé de son pays, est revenu au Honduras. Et en ce moment, en fait, il campe dans l'ambassade du Brésil à Tegucigalpa. Alors en ce moment, il campe dans l'ambassade du Brésil à Tegucigalpa, mais aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi, et à cette heure-ci, il est en train de discuter des possibilités d'arrangement, si on peut parler d'arrangement, avec Roberto Michelletti, qui est donc l'homme qui a fait le coup d'État pour le sortir du pouvoir, sachant que Manuel Zelaya avait pris un virage à gauche, on peut dire inopiné, puisque au départ il était quand même élu chez les conservateurs. Donc bon, je ne sais pas si vous avez suivi, parce que c'est un peu compliqué quand même la situation au Honduras en ce moment. Mais bon, on est là pour vous aider. Et bon, il n'y a pas beaucoup de journalistes sur le terrain, et il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le Honduras, parce que c'est pas un gros pays et tout ça. Mais j'ai rencontré pour vous Cecilia Baessa, qui est une chercheuse en sciences politiques et qui a fait toute une partie de son terrain pour sa thèse au Honduras, pour qu'elle nous explique un peu la situation là-bas. Et donc, j'ai commencé par lui demander quelle était la genèse de ce coup d'État et qui était ce Manuel Zelaya.
Manuel Zelaya a été élu en 2005. C'était le candidat du Parti libéral, donc ce qui est considéré comme le parti de centre-droit à l'échelle nationale, avec un programme qui était plutôt progressiste pour le Parti libéral, mais sans l'être trop non plus. Et puis après 2008, il y a eu un virage dans sa politique, un virage qui s'est traduit par un rapprochement du camp chaviste en Amérique latine, de la gauche proche de l'option bolivarienne au Venezuela. Alors ça s'est traduit comment ? D'abord par une adhésion à Petrocaribe, qui est une alliance à l'échelle caribéenne et qui permet en fait d'avoir du pétrole moins cher. Et ça, c'était dû à une très grande grève qu'il y avait eu dans le secteur des transports, qui réclamait une baisse du prix de l'essence. En 2008, 2007, 2008, on avait des prix du baril qui étaient très très élevés. Ça avait provoqué une crise économique. Et donc à cette époque-là, finalement obtenir du pétrole moins cher de Chavez, tout le monde était d'accord, hein, y compris le patronat d'ailleurs, hein, parce que Chavez ne demande pas tellement de contrepartie. Simplement, voilà, d'adhérer à cette organisation régionale. Mais il n'y a pas de contrepartie politique. Et puis, après 2008, après cette adhésion à Petrocaribe, finalement, ça a été le début d'un rapprochement, cette fois beaucoup plus idéologique. Et en l'espace de 6 mois, Zelaya a adhéré à l'ALBA. Et l'ALBA, c'est l'alternative bolivarienne pour les Amériques. Et là, par contre, on est dans quelque chose d'effectivement beaucoup plus marqué, avec une proposition politique, sociale et économique beaucoup plus clair. Et il a timidement, très timidement, je dois dire, commencé à faire certaines réformes. Je pense que la plus marquante, c'était celle qui consistait à mettre un salaire minimum, à changer donc la législation du travail pour ce qui concerne les maquiladoras. Les maquiladoras, c'est ces entreprises, c'est ces fabriques textiles qui sont dans des zones franches et en fait donc qui ne payent pas d'impôts, voilà. Et donc c'est, il y a essentiellement des entreprises chinoises et américaines qui travaillent dans le nord du Honduras. Donc ça, ça a été le premier conflit avec l'oligarchie nationale, puisque c'est celle qui possède les maquiladoras. Et voilà. Donc, en 2008 et 2009, on a senti le pays de plus en plus vivre une polarisation politique. Et Zelaya a montré une volonté de transformer bien plus en profondeur le pays, notamment sur le plan constitutionnel. Donc, il a fait une proposition qui consistait à changer un article de la Constitution, celui sur le renouvellement des mandats et la durée des mandats. Et il proposait de pouvoir se représenter aux prochaines élections qui étaient prévues pour le 29 novembre, donc d'ici un mois et demi. Le problème, c'est que cet article fait partie d'une série de 4 articles dit non réformable, c'est-à-dire c'était un peu le cœur de la Constitution, celui, un peu la partie intouchable de la Constitution. Donc il avait franchi en quelque sorte une ligne rouge en voulant changer cet article, parce que depuis la fin de la guerre froide et la consolidation démocratique dans la région, il y a un certain nombre d'acquis qui faisaient partie donc de cette espèce de cœur démocratique centra-américain, et ça en fait partie. Alors, ce qu'il a proposé, c'est d'appeler un référendum, un plébiscite, pour demander aux citoyens s'ils étaient d'accord pour que cet article devienne réformable, en quelque sorte, et leur proposer dans le même temps s'ils étaient d'accord pour que le nouvel article permette le renouvellement des mandats. Les référendums, ça existe depuis pas très longtemps dans la Constitution hondurienne, ça existe depuis 2006, et jusque-là, ça n'avait pas été régulé. Quelques jours avant le coup d'État, le Parlement, le Congrès, a voté une loi qui permettait de réguler précisément ces référendums, c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'ils devaient se faire, avec, enfin, disons, tout ce qui est la norme qui encadre les plébiscites et les référendums. Évidemment, ils ont profité de cette loi pour exclure une nouvelle fois la possibilité de réformer l'article en question. Et donc, il y a un bras de fer qui a commencé entre le président et le Congrès, le président ayant suggéré l'organisation d'une consultation populaire, donc qui n'était pas un référendum directement, mais une consultation populaire pour demander si les gens étaient d'accord avec la tenue d'un référendum. Et dans ce bras de fer, il a fait, dans la mesure où il n'avait pas l'aide du Congrès, il a reçu l'aide du Venezuela. Et ce qui a vraiment tout déclenché, c'est que des urnes sont arrivées par avion du Venezuela. Et ça a vraiment exacerbé toutes les tensions. Et donc, le jour où était prévue cette consultation populaire, c'est le jour où l'armée est intervenue. Et donc, a été le chercher au petit matin dans son lit, l'a réveillé en pyjama, et là, littéralement, lui a botté les fesses et l'a envoyé au Nicaragua.
Et quelle était l'ambiance dans la rue à propos de ce référendum, à propos de cette consultation populaire? Comment les gens réagissaient, mais pas au niveau législatif, au niveau de la population?
On commençait à observer quelque chose qui n'avait jamais été vécu au Honduras avant, qui était vraiment une polarisation politique et donc une forte politisation, je dirais, de la société. Parce que c'est un pays qui, il faut bien s'en rendre compte, qui n'a pas vécu les guerres civiles de ses voisins, qui n'a pas connu de guérilla. Donc c'est un pays qui n'a pas du tout la même tradition politique que celle de ses voisins. Et pour la première fois, cette idée de faire participer directement des secteurs populaires qui par ailleurs sont largement désinvestis de la politique, hein, il y a des taux d'abstention en général dans les élections présidentielles et législatives qui sont très très élevés, il n'y a que 40% de la population qui participe, donc on est même parfois bien bien en dessous de la moitié quoi, du corps électoral. Donc ces gens-là se sont sentis convoqués. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance électrique dans le samedi et le dimanche. Hein. Le dimanche 28 juin, les gens avaient tenté d'aller par la force aller récupérer les urnes à l'aéroport Et donc ça a provoqué des heurts entre les militaires et la population, et ces heurts d'ailleurs ont provoqué des morts, parce que c'est très rapidement en fait on a eu cette tension, et même si l'armée l'a nié par la suite, il y a eu pas mal de manipulations autour de ce sujet, mais il y a eu déjà des morts politiques, des assassinats dès le premier jour, dès le jour du coup d'État.
Et alors là, on est en juin dernier, donc le président Manuel Zelaya s'est retrouvé envoyé au Nicaragua, puis après au Costa Rica. Et qu'est-ce qui se passe dans le pays? Qui prend le pouvoir finalement au Honduras?
Alors ce qui est très particulier au Honduras, c'est qu'on a eu donc un coup d'État militaire, mais qui n'a pas placé les militaires au pouvoir, mais des civils. Et ce pour une raison simple, c'est que finalement, Zelaya, il avait réussi à se mettre à dos quasiment toute la classe politique. L'ensemble des institutions étaient vraiment radicalement opposées aux réformes proposées par Zelaya. Ce qui fait que c'est quelqu'un de son propre parti, Roberto Micheletti, qui s'est trouvé à ce poste de président intérimaire. Parce que le Parti libéral, c'est un parti fourre-tout. C'est un parti qui fonctionne par des factions. Et si Zelaya faisait partie de la faction la plus progressiste, on a aussi à l'intérieur de ce parti des gens qui sont très très à droite. Donc ce sont les gens de son propre parti qui, dans un acte un peu de trahison quand même, hein, ont pris le pouvoir. Et qui donc, d'un commun accord avec l'opposition, celle du Parti national, se sont accordés donc pour essayer de maintenir un gouvernement de transition jusqu'à l'organisation d'élections. Ils n'ont jamais remis en question le fait qu'il y allait avoir des élections.
Et donc là, on se retrouve avec deux présidents. Un président au Honduras, qui est un président, pas de facto, mais qui s'est autoproclamé, quoi. Et un président qui est en... au Costa Rica, qui se retrouve là-bas sans véritable pouvoir. Et comment réagit la communauté internationale face à cette hydre du Honduras?
Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas dire exactement que Micheletti soit un président autoproclamé, puisque dans la mesure où il avait le soutien de tout le système politique, finalement, sa nomination a été validée par le Congrès, elle a été validée également par la Cour suprême. D'ailleurs, c'est la Cour suprême elle-même qui avait demandé aux militaires d'intervenir le dimanche 28 juin. C'est pour ça qu'il y a un débat énorme sur la légalité, et chacun, en fait, se réclame de la Constitution. Autant Zelaya que le président de facto, qui est donc Micheletti. Donc on a une espèce de controverse autour de la légalité, et qui est une controverse qui est un peu hypocrite, parce qu'au fond, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, tous les deux ont violé la Constitution. La personne n'a les mains propres en la matière. Comment réagit la communauté internationale? Dans la mesure où en Amérique latine, on a eu pendant des décennies des coups d'État militaires à répétition, et dans la mesure où les 10 dernières années avaient été vraiment celles où il y avait une espèce de rédemption démocratique en Amérique latine, même le coup d'État militaire au Venezuela en 2004 finalement avait échoué, tous les États latino-américains se sont trouvés soudés pour condamner cette intervention militaire. Qu'il soit avec la proposition, le camp politique de Zelaya ou non d'ailleurs, parce que c'est évident que le basculement du Honduras du côté chavis bolivarien, c'est pas quelque chose qui enchante nécessairement tous les exécutifs latino-américains, mais néanmoins, c'était quand même quelque chose qui faisait partie d'un espèce de corpus commun, qui était l'idée de « non, ça, on y a renoncé, c'est définitif, on ne peut pas revenir en arrière, donc non au coup d'État militaire ». Ce qui fait vraiment la différence, c'est que pour la première fois de l'histoire, les États-Unis ont clairement condamné ce coup d'État. C'était jamais arrivé auparavant. En 2004, tout de suite, le gouvernement de Bush avait reconnu le gouvernement des putschistes. Et d'ailleurs, ça avait été suivi par une reconnaissance d'Aznar en Espagne, une reconnaissance et qui après s'était rétractée du Chili même, hein. Donc à l'époque de Lagos, d'un gouvernement socialiste. Là, vraiment, c'est différent. Obama a clairement condamné ce coup d'État. Il y a eu une concertation à l'échelle continentale qui a permis à l'OEA donc, de condamner le coup d'État. Et du coup, ça a entraîné une série de retraits à la fois d'ambassades, on a coupé les fonds, les aides financières, sauf les aides humanitaires, parce que c'est quand même un pays très très pauvre. Donc c'est vrai que si on retire certaines aides, ça affecterait plutôt la population que le gouvernement en place. Mais on a eu, disons, une unanimité, et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Ouais, c'était Andate de Todos Tus Muertos, tous les morts. Tous les morts, c'est un groupe du Guatemala. Mais là, ce soir, nous parlons toujours sur Fréquence Paris Pluriel du Honduras. Nous parlons du Honduras et nous parlons du coup d'État qui a eu lieu le 28 juin dernier. Et nous sommes avec Cécilia Baessa, qui est une chercheuse en sciences politiques. Et pour continuer l'entretien, je lui ai demandé, en fait, parce que quand on parle du Honduras, forcément, on a l'idée quand même que les États-Unis sont derrière, parce que c'est quand même une république bananière, parce que c'est quand même le pays qui était quand même l'arrière-cour des États-Unis au moment de la contre-révolution au Nicaragua. Et donc, c'était quand même le pays où il y avait tous les camps des Contras à l'époque de la guerre entre les Contras et les Sandinistes au Nicaragua. Et donc, j'ai voulu savoir si finalement, quel était le rôle des États-Unis dans ce coup d'État, dans celui du 28 juin dernier, puisqu'on sait que les États-Unis l'ont condamné, mais finalement, est-ce qu'il n'y avait pas des petites choses derrière tout ça ? Est-ce que c'est la vérité ? Quel était le rôle des États-Unis pour ce coup d'État ?
C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de l'implication des États-Unis. Malgré la condamnation d'Obama, beaucoup ont pensé que les États-Unis étaient derrière le coup d'État. Et pour ça, ils ont deux arguments. Le premier, qui est assez juste, qui est de dire que Zelaya remettait en question la présence d'une base militaire américaine près de Tegucigalpa. Et ça, c'est vrai. Mais c'est pour une question simple, c'est qu'il y a un problème d'aéroport. La piste de l'aéroport de Tegucigalpa est trop courte, elle est très dangereuse. Il y a un aéroport très proche qui est utilisé par la base américaine. Et Zelaya demandait à la récupérer pour reconstruire un aéroport international. Mais bon, il y avait, c'est vrai, une espèce de tension autour de cette base militaire. Le deuxième argument, c'est de dire « mais non, mais c'est pas possible, un petit pays aussi dépendant, on ne peut pas imaginer que des politiques prennent le risque de faire un coup d'État sans avertir au moins l'ambassade américaine, sachant que l'ambassade américaine a toujours eu un rôle très très important en Honduras. » Alors, évidemment, ça c'est pas faux, on a envie de dire que c'est des arguments qui sont assez forts, mais d'un autre côté, quand même, si on met en perspective, depuis la fin de la guerre froide, il y a eu un désengagement très très fort des États-Unis de la région. Je veux dire, la raison pour laquelle les États-Unis étaient impliqués, c'était essentiellement parce qu'ils avaient peur de la contagion communiste, et surtout le Nicaragua, c'était ça vraiment le nœud de la région. Hein. Et c'est vrai que le Honduras avait servi de base arrière aux Contras, donc la contre-guérilla qui s'opposait aux révolutionnaires sandinistes. Et le Honduras avait servi de base arrière et les Américains avaient largement financé l'armée hondurienne qui avait soutenu les Contras et qui avait d'ailleurs aussi réprimé largement sa population. Il y a eu des disparitions de syndicalistes, etc. dans les années 80. Ce qui fait qu'on a une armée qui a été formée dans cet anticommunisme, qui est devenu quelque chose de presque identitaire pour les forces armées honduriennes. Moi, ce qui me semble, c'est que plus qu'une implication directe des États-Unis, on a l'héritage de cette présence. Et c'est vrai que si on agite le chiffon rouge devant le nez des généraux, en leur faisant penser que le Honduras est sur le point de basculer dans le modèle castriste, parce que les gens avaient très peur, ça y est, le Honduras, ça va être Cuba, les élites, même une partie des classes, des petites classes moyennes, il y en a très peu, mais étaient très effrayés par cette idée. Donc on a fait peur, parce que de toute façon, Chavez est diabolisé en Amérique latine. Et en agitant ce chiffon rouge devant l'armée, eh ben, elle a couru, tout simplement. Parce que pour elle, il y a quelque chose qu'on ne peut pas admettre, c'est ça, c'est une dérive communiste du pays. Donc militairement, les États-Unis ne sont pas impliqués. Parce que comme je l'ai dit, depuis les années 90, il y a eu un très net désengagement financier et militaire. La deuxième raison, elle est économique. Les États-Unis, jusque dans les années 80 presque, ils étaient très présents par deux compagnies qui étaient des compagnies bananières, des compagnies fruitières. Tout le monde connaît la United Fruit Company et on sait quel poids elle a eu dans le renversement d'un certain nombre de régimes en Amérique centrale. Jacobo Arbenz au Guatemala en 54, etc. Mais ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui fait partie du passé. Le Honduras s'est largement reconverti vers l'industrie textile de bas coût, donc ces fameuses maquiladoras. Et dans ces maquiladoras, il n'y a pas que des capitaux américains, loin de là. D'abord, il y a des capitaux nationaux, Et il y a aussi des capitaux asiatiques. Et je dirais même plus, d'ailleurs, quelque chose qui est très étonnant et qui nous dérange un petit peu parce que ça ne va pas dans notre grille de lecture. Il se trouve que Nike et Adidas ont demandé à Obama d'intervenir plus fermement pour le retour de Zelaya. Et ça, c'est assez nouveau. Bon, alors, on se dit qu'il y a quelque chose derrière. C'est bizarre. Il devait y avoir une accointance entre ces entreprises-là et Zelaya. Ce n'est pas possible. Mais finalement, elle se trouve dans une situation compliquée parce que depuis le coup d'État, y a pas mal de grèves dans les maquiladoras, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, etc. Donc du point de vue de leurs intérêts, c'était bien mieux quand il y avait une régulation, quand il y avait quelque chose qui permettait de maintenir un certain ordre social. Et il se trouve donc que ces entreprises ne soutiennent pas le coup d'État. Donc ça nous prend à brousse-poil, ça nous gêne, parce qu'on se dit, oula, mais qu'est-ce que ça signifie? Et je pense que ce qui est intéressant dans ce coup d'État, c'est qu'on est vraiment, pour le coup, dans un événement politique post-guerre froide, qui rebat les cartes, qui met en scène des nouvelles règles du jeu, avec des enjeux de classe, parce que, pour le coup, Honduras, c'est très fort. Il y a vraiment une oligarchie et une très grande classe ouvrière, mais surtout paysanne, qui, elle, soutenait en bonne partie Zelaya, mais en même temps avec une configuration internationale qui est très, très différente de celle du passé. C'est peut-être même pour ça, parce qu'on a des nouvelles règles du jeu, que l'unanimité continentale, y compris celle des États-Unis, n'a pas permis une solution rapide à cette crise, parce que ça fait quand même maintenant depuis juin, donc on est en octobre. C'est fou, c'est-à-dire on n'a pas réussi, malgré le fait d'avoir retiré les fonds financiers, alors que c'est un petit pays dépendant de l'aide internationale, on n'a pas réussi à faire plier le gouvernement de facto de Micheletti. Donc on a vraiment des nouvelles règles du jeu et qui sont assez perturbantes et peut-être même un peu inquiétantes, parce que si on n'arrive pas, quand la communauté internationale est d'accord à imposer la démocratie à un petit pays comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur un pays d'une autre échelle, hein? C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on sorte de cette crise, parce que sinon ce sera de très mauvais augure pour le reste de la région.
Et alors là, ces derniers temps, pour ne pas dire fin septembre, Zelaya est revenu au Honduras, hein, c'est-à-dire qu'il a pu revenir dans son pays, mais il se retrouve, plus ou moins, pour ne pas dire carrément, coincé dans l'ambassade du Brésil. Et quelle est la situation sur place, finalement ?
Alors, on a vraiment une situation un peu ubuesque. Parce qu'on a donc le président élu qui est retranché à l'ambassade brésilienne, dont on est en train de violer tous les droits diplomatiques. Le gouvernement a coupé l'eau, l'électricité. Enfin, il essaye vraiment d'assiéger. C'est vraiment une ambassade qui est assiégée, à qui d'ailleurs le gouvernement menace de retirer son statut diplomatique. Et un énorme cordon militaire autour de cette ambassade, parce que ce qu'essaye d'éviter le gouvernement en place, c'est une mobilisation populaire autour de l'ambassade, à laquelle d'ailleurs a appelé Zelaya, hein, parce que tous les deux sont dans un espèce de rapport de force. Et donc voilà, donc on a la ville qui est repolarisée autour de cette ambassade. Et c'est pour cette raison que le gouvernement de Micheletti a, mais très dernièrement, là, mis en place un certain nombre de règles par un décret qui ont annulé un certain nombre de libertés civiles. Donc le droit de réunion, le droit de manifestation, etc. Tout ça a été remis en cause parce que, à nouveau, ce que craint Micheletti, c'est une escalade via la mobilisation populaire. Alors on a des choses, les gens essayent de façon inventive de casser ces restrictions des libertés et essayent de briser ce cordon militaire. On a eu des batucadas qui sont arrivés autour de l'ambassade en dansant, en essayant de perturber un peu cette, cette attitude de retranchement qui a été provoquée par, par les forces armées. Il y a un mouvement de résistance qui cherche à s'inventer autour de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un plan politique. Parce que pour le moment, on n'a pas vraiment de plan de sortie de crise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait se passer ? De toute façon, dans la mesure où le système politique est quasiment dans son intégralité opposé à Zelaya, Zelaya ne peut pas revenir simplement, et on peut pas revenir à la situation pré-28 juin. Il ne va pas pouvoir reprendre la présidence, réorganiser un référendum, un plébiscite. Il va falloir faire des concessions. Alors lesquelles ? C'est ça qui est en jeu.
Justement, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Quelles sont les perspectives pour la résolution de la crise au Honduras ? Est-ce qu'il y a des plans B possibles à cette crise ?
Alors oui, il y a des plans B. Le plan le plus intéressant, ça avait été celui qui avait été proposé par Oscar Arias, le président du Costa Rica, qui est un prix Nobel de la paix par ailleurs, parce qu'il était déjà intervenu dans les années 80, à la fin des années 80, pour la fin des guerres civiles chez ses voisins. Donc c'est une personnalité, disons, très consensuelle et très reconnue dans le reste de l'Amérique centrale. Le plan d'Oscar Arias, il proposait à la fois le retour de Zelaya à la présidence, une amnistie politique généralisée des deux côtés, hein, puisque chacun accuse l'autre camp d'avoir violé la Constitution. Là, il s'agirait de faire une amnistie politique pour tout le monde. Un retour à l'apolitisme des forces armées, c'est-à-dire vraiment repositionner les forces armées dans leur neutralité, hein, et vraiment les empêcher par quelques moyens que ce soit d'intervenir. Et puis, en demandant à Zelaya de renoncer, de quelque forme que ce soit, à sa réforme constitutionnelle. Ce qui implique donc qu'à la fin de son mandat, ils doivent se retirer, puisque au Honduras, on ne peut pas se représenter deux fois aux élections. Donc c'est simplement lui assurer une sortie digne, on va dire, par le haut, en reprenant la présidence, mais sans faire les changements de fond. Mais ça avait été accepté à l'époque par Zelaya, et ça avait été refusé par Micheletti. Parce que vraiment, il y a toute une partie du patronat et du système politique qui est farouchement opposé de quelque forme que ce soit au retour de Zelaya. Il y a un mandat d'arrêt contre lui au Honduras, et la seule chose que demande Micheletti, c'est que, en gros, Zelaya soit arrêté, envoyé en prison, et qu'il y ait un procès contre lui. Depuis que Zelaya est retourné au Honduras, alors dans un premier temps, il a dit « Maintenant, moi non plus, je n'accepte plus le plan d'Oscar Arias ». Parce qu'il s'était radicalisé, donc il avait dit « Non, je reviens, mais je veux faire ma réforme constitutionnelle, ma consultation populaire, etc. » Depuis, il y a eu un plan, un second plan qui a été proposé par les organisations patronales, qui ont un peu le MEDEF local, qui pour le coup a un poids politique, une influence considérable. D'ailleurs, Zelaya lui-même a fait partie de ces organisations patronales. Soyons pas non plus naïfs sur la figure de Zelaya. C'est un homme politique qui ressemble en tout point, du point de vue de sa trajectoire, à ses collègues. Hein, lui aussi est un grand entrepreneur. Il faut savoir qu'au Honduras, presque la moitié des députés sont entrepreneurs par ailleurs. Hein. Donc c'est tous des gens qui ont un pied dans le milieu économique et un pied dans le milieu politique. Donc une organisation patronale avait suggéré un second plan qui consistait à dire Zelaya reprendrait la présidence, il ne pourrait toujours pas faire sa réforme constitutionnelle, mais en plus il serait assigné à résidence. Évidemment, Zelaya a refusé, et là on est en train, mais ça s'est passé entre hier et aujourd'hui, donc aujourd'hui samedi, on revient éventuellement au plan d'Oscar Arias comme point de départ pour une discussion, pour une négociation. Apparemment, une négociation bipartite va débuter la semaine prochaine, parce qu'en plus, il y a une délégation de l'OEA qui doit revenir à Tegucigalpa.
Et alors, pour toi, quel est l'avenir possible ? Y a-t-il quelque chose un peu d'espoir ?
Bon, je pense que pour Zelaya, je m'avance. Hein. C'est un peu cuit. Je pense pense qu'au mieux, effectivement, il pourra reprendre la présidence, mais de toute façon, il ne pourra pas se représenter. Ce qui est positif, c'est qu'il s'est passé quelque chose du point de vue des catégories populaires au Honduras, qui se sont politisées comme jamais, qui se sont senties convoquées par un nouveau projet politique. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, tant mieux si ça ne repose pas sur une personne. Je préfère voir les classes populaires s'emparer de ce projet. Il pourrait très bien y avoir un autre candidat finalement qui incarne ça pour la prochaine présidence, et puis peut-être après encore un autre, plutôt qu'un homme seul. C'est un peu la dérive, et c'est un peu dommage d'ailleurs dans ces propositions bolivariennes en Amérique latine, c'est que souvent il y a un peu une incarnation unique et populiste du changement politique. Donc je suis plutôt optimiste malgré tout. Je suis peut-être pas très optimiste pour Zelaya lui-même, mais peut-être que ça va faire changer, bouger un peu les pièces de l'échiquier politique au Honduras, parce que jusque-là, on était dans un espèce de statu quo, plan-plan, où il ne se passait pas grand-chose, et ce, en dépit d'inégalités énormes, flagrantes, avec des problèmes sociaux énormes. On a aussi les maras, les mêmes maras qu'il y a au Salvador, elles existent aussi au Honduras. Donc une jeunesse désœuvrée, au chômage, sans perspective, les conditions de travail des ouvriers désastreuses, une nécessité de réforme agraire, comme il y en a toujours eu en Amérique latine, c'est encore un thème en suspens au Honduras. Donc il y a vraiment des choses à faire, mais c'est vrai que depuis le retour à la démocratie, alors la pseudo-démocratie des années 80, qui vraiment pour le coup n'en était pas une, mais le retour des années 90, bah, c'était une démocratie délégative. De toute façon, ces gens-là, ces secteurs-là ne participaient pas, ne votaient pas. Ils étaient vraiment dans l'abstention, le retrait, parce qu'ils ne se sentaient pas concernés, parce que de toute façon, les partis, la classe politique, eh ben, les rejetait, les discriminait, ils n'étaient pas du tout représentés. Donc voilà, peut-être que ça va réveiller quelque chose et que quelque chose de positif va sortir de tout ça.
Oui, les matadors, elles sont toujours au pouvoir actuellement au Honduras, mais en ce moment, les gorilles, on les appelle comme ça, les gorillas, là-bas, sont en discussion, C'est un grand mot, mais en tout cas, l'organisation des États américains organise des pour parler de paix et pour un retour en particulier de Manuel Zelaya au pouvoir actuellement, c'est-à-dire aujourd'hui mercredi. Et alors là, pour l'instant, ils sont encore en discussion. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais suivez bien l'actualité puisque les gorilles et les matadors sont au pouvoir. Mais on espère que le retour de Manuel Zelaya au pouvoir et en tout cas le réveil de la société civile et une certaine apparition d'une résistance et d'une conscience, une conscience de classe, mais aussi une conscience politique est apparue au Honduras. Et on va suivre l'affaire coûte que coûte aux oreilles loin du front.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était les oreilles loin du front. Vous pouvez réécouter l'émission vendredi matin entre 8h30 et 10h sur FPP. Aujourd'hui, autour des micros, il y avait tous les membres de la guérilla radiophonique. Il y avait Alexandrine, la gonne de la radio, Guillaume, haut représentant du féminisme de la technoscience, et Juliette, notre porte-parole exclusive des Honduriens. La semaine prochaine, on parlera de la lutte sociale et politique en Tunisie à la veille des élections présidentielles. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et nous vous laissons dans les bras des échos du Capricorne.